je t'aime. Tu as du bruit à mes yeux et je t'aime. Oui, je t'aime. C'est moi, Yahvé, qui t'ai formé et par ton nom t'ai appelé. Mon grand amour t'ai animé depuis ce jour.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio communautaire du Manitoba, CKXL. En ce dimanche 17 novembre, bienvenue à cette émission intitulée « Pourquoi pas ?». Cette émission est animée aujourd'hui par les membres de la Ligue féminine catholique. Mon nom est Doris Fillion et nous avons en studio aujourd'hui la dame qu'on reconnaît comme fondatrice de notre organisme. Hélène Blais, fondatrice de la Ligue féminine catholique. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Ça va bien aujourd'hui?
Oh, assez bien, merci, oui.
Hélène, pourrais-tu nous dire où tu as commencé la Ligue?
Oh bien, disons, en rétrospective, là, il faudrait que je retourne dans ma paroisse. Au début, il y avait un groupe de dames qui s'appelait un centre de couture, un cercle de couture. Ensuite, plus tard, c'est l'abbé Payet, Clovis Payet, qui est venu installer les Dames de Sainte-Anne. Bon, les Dames de Sainte-Anne ont continué, ont fait un beau travail. En majorité, c'était des dames canadiennes-françaises, mais avec le temps, qui s'est passé jusque dans les 30, là, on s'est vu plusieurs différentes nationalités, et puis les nationalités dominantes, c'était les Français d'abord. Ensuite, il y avait de l'anglais, du polonais et de l'italien. Alors, nécessairement, il fallait trouver un organisme pour les dames qui ferait l'affaire de tout le monde et il fallait absolument que ce soit quelque chose de solide. Dans le temps, c'était Monseigneur Bellavance. Il n'était pas encore Monseigneur dans le temps, mais lui, il voyait pas mal d'avance puis il avait un esprit très large. Alors, la Catholic Women's League qui fonctionnait dans le Manitoba, a envoyé une représentante qui est venue nous expliquer la Catholic Women's League. Bon, les Dames de Sainte-Anne n'étaient pas trop en faveur de se joindre à un organisme en anglais, mais avec le temps, puis la patience de Mgr Bellavance, après 2 ans de pourparler, en 1951, on s'est vu fonder une section de la Catholic Women's League of Canada. Bon, moi, j'étais pas dans les Dames de Sainte-Anne parce que j'étais pas une dame mariée, dans le temps, c'était pas possible. Mais j'étais dans les enfants de Marie. Alors, j'étais pas mal impliquée dans les enfants de Marie, les dames non mariées, les jeunes filles, on était toutes dans ça. Alors, Mgr Bellavance, lui, voulait rapprocher les deux groupes. Et puis, en fond, dans la Catholic Women's League, c'est que les dames non mariées et puis les dames mariées, on fait toutes être dans le même groupe. Et ça a très, très bien marché en 1951. Alors, comme je dis, on fonctionnait en anglais parce qu'on était une paroisse quadrilinguistique. Et c'était l'anglais.
Alors, vos racines sont le site où vous
Oui, moi, j'ai jamais été dame de Sainte-Anne, et moi, là, tu sais, j'étais dans le Catholic Women's League. J'ai travaillé dur là-dedans. Et puis, j'ai même été élue présidente en 1958. Et puis, en 1958, j'avais été à un congrès à la paroisse Sainte-Famille, et Mgr Beaudoux, qui était l'évêque du temps, notre évêque, avait lancé aux congressistes. And what are you doing for the French-speaking ladies of the diocese?
Oh, alors c'est surprenant, hein?
oui, il avait lancé ça. Puis moi qui étais là, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est la Ligue anglaise. Mais je ne peux pas rien faire de grand-chose dans ce temps-là, parce que c'est rien qu'en 1960 que notre paroisse a été divisée divisée en deux, pour fonder Saint Joseph the Worker, et puis aussi pour fonder Blessed Sacrament. Alors, en 1960, comme je disais tantôt, la paroisse est redevenue paroisse canadienne-française. Alors, les dames de la paroisse, en 1960, se sont rencontrées, et puis ça donne que c'était Monseigneur Fréchette.
Ah oui,
il était nouvellement ordonné prêtre, qui est venu comme...
vicaire.
Comme vicaire, oui. Et puis, c'est l'abbé Chomsky qui était le curé de la paroisse dans le temps. Alors, on était divisé en trois paroisses. Alors, l'abbé Fréchette était à la réunion des dames, puis on se demandait si on était pour retourner aux dames de Saint-Anne, mais on était tellement ancrés dans la Catholic Women's League avec la nouvelle formule, la nouvelle manière de fonctionner, et puis aussi ça donnait plus d'autonomie aux dames. On avait maintenant notre compte de banque propre. Avant, c'était pas possible. Oh. Et des choses comme ça, hein. Moi, je faisais pas mal à l'organisation, ces choses-là. Alors, Monseigneur Bellevance, comme je dis, il avait bien pensé son affaire. Puis en 60, bien, à la première réunion, on a décidé entre nous autres qu'on aimait mieux rester dans la Ligue, mais qu'il fallait faire les réunions en français. On est une paroisse française maintenant, là, c'était plus possible de fonctionner en anglais.
Même si la langue officielle n'était pas...
Oui, c'était pas reconnu dans le temps. Alors, puis la Catholic Women's League, c'était vraiment incorporé pour les dames catholiques d'expression anglaise. C'est dans leur statut règlement.
Ah oui, ça nous exclut, ça.
Oui. Alors, Monseigneur Baudou, sans qu'on sache, avait déjà fait traduire le livret de la Catholic Women's League pour qu'on l'ait en français. Alors, j'ai le petit livret ici qui a fait traduire, lui, en octobre 1954. Mais puisque la Catholic Women's League était incorporée, n'avait pas le droit de se servir de ce petit livret-là, avant que leur statut de règlement, eux autres, soit, comme on dit en anglais, « outdated ». Alors, en 1958, eux autres, ils ont changé leur statut de règlement. Alors, le statut de règlement de 53 que Mgr Baudu avait fait traduire, on fait s'en servir maintenant, parce que pour eux autres, c'était « outdated ».
Ah oui,
alors,
je comprends.
Tu comprends? Bon. Alors, en 58, comme je dis, moi, là, je voulais la Ligue absolument. En 60, alors, on a décidé d'avoir une Ligue française, et puis c'est... l'abbé Fréchette qui nous a aidé à s'établir là-dedans.
Alors, depuis ce temps-là, je crois que chaque année, la Ligue se réunit en congrès et se donne un programme basé sur une ligne de conduite. Et cette année, en 91, on a choisi comme thème « J'ai du prix à ses yeux et il m'aime ». Voilà pourquoi nous dédions cette première émission à l'historique de la Ligue avec témoignage de vive voix notre présidente fondatrice. Je vous invite à verser une tasse de thé, à croquer un biscuit, de vous fermer les yeux et de vous embarquer sur ce voyage de découverte de nos racines. D'abord, pourriez-vous nous dire, Mlle Blais, exactement quels étaient les buts de la Ligue au début, en 61, quand vous avez commencé?
Bien, Au début, je pense que c'est pas mal la même chose qu'on a aujourd'hui. C'est pas tellement changé, tu sais, là.
Est-ce que c'était pas
C'était
plutôt
pas.
basé sur l'action catholique à ce moment-là?
Bien, quand on a établi la Ligue, vraiment, là, comme on dit, la Ligue au plan diocésain, c'était vraiment en 1962. Après 2 ans d'avoir fonctionné en français, affilié à la Ligue anglaise, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes linguistiques. Hein? Alors, en 1962, 6 paroisses, avec la permission de l'évêque, se sont rencontrées pour établir le premier conseil diocésain de la Ligue féminine catholique. Mais on s'appelait la Ligue, la
Des femmes.
Ligue des femmes catholiques du Canada, parce que c'était ça la traduction que Mgr Baudou avait voulu qu'on fasse. Hein. Alors, après ça, bien, on était maintenant détaché de la Ligue anglaise et on pouvait faire ce qu'on voulait nous autres avec notre Ligue française. Et puis c'est l'abbé Beaulieu, Léo Beaulieu, le directeur de l'Action catholique, qui nous a mis sur pied. Et tout ce qu'on avait travaillé avec, c'était le petit statut et règlement que Monseigneur avait fait traduire.
Alors,
On s'est basé
c'est quoi
là-dessus.
l'action catholique? Est-ce que vous vous souvenez de
L'Action
ça?
catholique, bien, c'est comment qu'on va définir ça?
Devoir de réagir et d'agir.
Oui, on était des femmes catholiques, mais aussi on voulait garder notre langue. Et puis les deux à l'aide de pair, je pourrais dire, pour faire, tu sais, en fait, qu'on est vraiment des femmes vraiment catholiques, profondément.
Alors, vous aviez toujours un aumônier qui vous accompagnait?
Oui, on avait l'appui de l'aumônier qui était de coutume le curé de paroisse. Et puis, on secondait les efforts du curé, sans qu'on se fasse dire faites ci puis faites ça, comme dans les temps des Dames de Saint-Anne. Mais là, maintenant, avec le système de la Ligue féminine, on avait des comités, et chaque comité avait certains devoirs à remplir, certaines critères à remplir, et c'est de cette façon qu'on attirait les gens. Si tu as des talents comme pour la publicité, ben on les mettait dans le comité de publicité ou bien de presse ou d'action sociale. Ça, c'est la visite aux malades et puis des choses comme ça. Hein.
Vous aviez un comité spirituel aussi, je pense.
Oui, le comité spirituel, c'était le plus important, ça. Ouais.
Quelle sorte de choses se passaient dans ce
Ça
comité-là?
aussi, c'est pas mal la même chose qu'aujourd'hui. Les dames faisaient la catéchèse, aidaient pour préparer les enfants pour la première communion, pour la confirmation, des choses comme ça. Puis on aidait à l'église avec le chant. On aidait les dames. On ne pouvait pas lire les lectures dans le temps, mais on était dans l'ombre, en arrière, mais on aidait, tu sais, là,
Et
préparer
c'est seulement
l'autel.
après Vatican II, ça a changé ça, hein?
Oui, après, oui, on allait visiter les premiers-nés, on leur apportait des médailles, tu sais, là, pour leur montrer que la Ligue était vraiment là pour les aider, pour les supporter. Oui, on faisait. Est-ce que je peux dire une petite histoire en passant, là?
Oh, ben certainement, une anecdote, ça va
Voilà,
bien.
c'est que des bouquins spirituels, on faisait des bouquins spirituels, ça pour donner à nos religieuses à l'école ou bien aux prêtres ou bien des choses comme ça. Moi, j'ai tombé malade, j'ai rentré à l'hôpital, puis j'étais pas à l'hôpital une semaine, que tiens, il m'arrive un bouquin spirituel, ben je dis, moi, je suis rendue religieuse, je suis rendue pourquoi là, moi, là? Ça m'avait vraiment touchée. C'était la présidente de la section de Saint-Norbert qui m'avait envoyé ça, puis j'ai appris après que cette dame-là, qui avait 8 enfants, qui était la présidente de la Ligue de Saint-Norbert, ben, mon Dieu Seigneur, merci mon Dieu, les belles prières. Tu sais, ça m'avait touché ça.
Ben oui, c'est des choses comme ça qui
Oui,
font que la tâche n'est pas si difficile.
c'est ça. Ça m'a aidé beaucoup.
Et alors, il me semble que là, 18 ans, on a passé une crise de croissance à un moment, comme organisme. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Ça, c'était vers quelle année, soit?
Vers
60?
78 à peu près.
78,
On a révisé les statuts et les règlements à ce moment-là.
Bien, au début, la Ligue avait fait des pas, je dirais même géants, parce qu'on a monté en flèche. C'était tout un nouveau système. Les prêtres, les dames laïques voulaient entrer là-dedans, comme si ça nous donnait un peu plus de savoir-faire aux dames. Et puis, on n'était pas tellement à l'écart, en arrière. Ça nous donne la chance de s'exprimer. Mais je pourrais dire au premier congrès, une autre histoire en passant, le deuxième congrès qu'on avait eu à l'hôtelier, on avait demandé à Gildas Molgat de venir nous parler sur le rôle civique de la femme. Bon, M. Molgat nous a dit après que c'était la première fois qui avait la chance de parler en français à des groupes d'organismes dans le Manitoba.
Ah oui? Vous avez passé pour féministe, je suppose, après ce moment-là. Hein?
Non, mais non? C'est que lui, il n'avait jamais eu la chance. On n'avait pas d'organisme fonctionnaire en français. Le français, on avait peur d'en parler, je pense. Mais là, ça nous a fait ça nous a fait plaisir à Mme Jutras et à moi, parce que c'était elle la présidente, là.
Je peux m'imaginer que vous deux, vous étiez des institutrices à ce moment-là.
On était pas du français, je te dis.
Oui, on cachait les livres, hein. Et puis alors, je me sens qu'on s'est affilié à la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises à un certain moment. Mm-hmm. C'était à l'apogée de notre organisme, ça?
L'année de notre affiliation à la Fédération, c'était en 1975.
Ah oui.
1975, on avait un grand congrès. Je ne sais pas si c'était pas à Saint-Norbert dans la ville de Marie-Amuska. En tout cas, on s'est affiliés à eux autres parce que dans le temps, la fédération, c'était vraiment presque les mêmes buts parce qu'on n'avait pas le droit de s'affilier à d'autres groupes, hormis qu'on soit les mêmes buts. Alors, la fédération, c'était pas mal les mêmes buts. Eux autres aussi avaient des aumôniers, puis, tu sais, on allait à leur. Ils appelaient pas ça des congrès, eux autres, ils appelaient ça. Je sais pas, là, des rencontres à Ottawa, puis...
Des réunions annuelles, peut-être?
Oui.
Des
uh-huh.
réunions nationales?
Uh-huh. Puis on avait la messe, puis, tu sais, ça allait très bien. Ouais. Et puis on a appris avec eux autres aussi, parce qu'eux autres aussi, ils préparaient des colloques, et puis on allait en Saskatchewan pour apprendre comment à parler en public, et puis les dames étaient en train de s'épanouir comme faut en se joignant avec la fédération, surtout en fait de notre culture et de notre langue française, oui. Ça, il faut les remercier pour ça.
Mais il faut remarquer qu'aujourd'hui, c'est en déclin pas mal la Ligue. On avait l'habitude d'avoir 700 membres, puis plus, puis maintenant, c'est quoi, 250 peut-être?
Mm-hmm. 250.
Avez-vous des raisons pour ça, ou des excuses?
Bien, il y a peut-être plusieurs raisons. C'est que dans les paroisses urbaines, il y a tellement d'organismes qui demandent notre aide, et puis qui demandent des membres. Alors, c'est pas mal difficile d'être dans 4 ou 5 ou 6 différents organismes en même temps. On a tant de temps, on a tant d'énergie.
C'est ça, on sent tout essoufflé.
Oui, c'est ça.
Alors, on se sent brûlé des fois.
Oui. En campagne, c'est plus facile, je pense, d'avoir une ligue. Il y a moins de choses qui nous attirent ailleurs. Mais en ville, il y a tellement de choses. Puis, toutes des bonnes choses, on ne peut pas dire, mais allez pas aider la ligue pour la vie. Ils n'ont pas soin de l'aide, ça, pas souvent. Tu sais.
C'est ça, puis pareil pour les conseils de paroisse.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que vous sentez qu'on est le petit reste?
Non, moi je pense qu'il y aura toujours besoin d'une ligue de femmes catholiques, vraiment catholiques, pour seconder les efforts du curé, et puis pour rien que pour faire de l'action catholique, mais comme on disait dans notre feuillet, là, la ligue c'est pas rien que pour faire des... On se fait dire ça souvent, hein, c'est d'une bunch de femmes qui font des thés et des bazars, et puis, mais c'est vraiment plus que ça. De temps en temps, il faut faire des choses pour prélever des fonds pour le soutien de la paroisse. Ça, c'est normal et naturel. Mais encore, on fait des rencontres en paroissiens en faisant des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. La Ligue veut préserver les valeurs morales dans la société d'aujourd'hui. Le respect de la vie, la sainteté du mariage, l'institution de la famille, l'éducation chrétienne des enfants. On vient juste de préparer un bref là, pour présenter à la rencontre qu'il y a à l'hôtel Norwood là, sur les changements que la commission scolaire veut faire. Hein,
ah oui, ça s'est bien passé,
puis,
ça?
Oui. Ah oui, on a préparé un bref, on a travaillé dur là-dedans, oui. Puis,
vous sentez que votre message a été bien
passé?
Ah oui,
notre message, oui. On était très, très bien préparé. On a présenté un bref, et puis Cécile Bayou qui a fait la présentation avec l'aide de Marcel, le maire, et moi-même, on était les trois pour eux. Mais c'était les sections avaient déjà envoyé leurs remarques et puis leurs idées. Et c'est avec ça qu'on s'est basé, puis on a préparé notre bref. Puis je pense qu'on a bien fait ça. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit.
Alors,
s'il va y avoir des résultats.
On est encore très visible d'abord.
Oh, visible, oui.
Je remarque cette année, c'est le prix. On parle du prix aux yeux du Seigneur. Mais on a eu des recettes de prix. On a eu le prix Caritas au mois d'avril. Pouvez-vous nous dire un petit peu de ça?
Oh bien, le prix Caritas, quand on m'a téléphoné pour me dire qu'on aurait un prix, bien, je dis, pas croyable. La Ligue qui fonctionne dans l'ombre, on n'est pas là pour se faire vanter. Mais là, l'association qu'elle...
C'est la Fondation, Catholic Human Toolbox qui nous a...
Qui nous a reconnus comme étant des vraies femmes catholiques qui faisaient beaucoup de travail et puis qu'on se faisait jamais remercier assez peut-être.
Et caritas, ça veut dire aimer le cœur, la charité?
Oui, la charité, oui. Aider son prochain, c'est ça.
Et puis au mois de juin, je remarque qu'Augustine Abraham, qui est membre de la Ligue aussi, a reçu le prix Évangélium. Mm-hmm. C'est une grande journée de fête pour nous. Mm-hmm. Et Cécile Bayou a reçu le prix Réseau au mois de septembre. Et puis tout justement, Noélie Pallud mm-hmm. vient de recevoir le prix Riel. Mm-hmm. C'est des événements qui nous touchent vraiment. Et en fouillant dans les archives, il me semble que les ligueuses ont bien compris qu'il s'agissait d'être le sel de la terre, le levain de la pâte ou encore l'image du Christ. De plus en plus, elles s'impliquent dans la vie communautaire. En plus, elles s'insèrent dans d'autres groupes. Et pour vous rappeler la mémoire, là, en 1970, on dit qu'on se joint à la Société franco-manitobaine, à l'Institut Vanier, à la Commission du Pont et à Développement et Paix. C'est beaucoup d'organismes dans une année, ça. En 1971, on se joint à l'Organisation des Sourds et des Muets. En 72, c'est Serena, Celdic et Justice sociale. En 73, la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises. En 75, le Conseil canadien sur le statut de la femme. En 76, l'Arche de Jean Vanier. En 86, pour en sauter un peu, là, la Journée de la femme, on y participe. En 88, c'est les États généraux de la SFM. Et vous en dites, là, mm-hmm. il y en
on
a encore deux.
Oui. On s'implique dans tous ces organismes-là, puis on les épaule dans le temps. Puis pour l'éducation, là. On avait une résolution cette année là pour appuyer
les conseils des parents.
Oui, le conseil des parents pour que
les éducateurs francophones, oui.
Notre propre société, pas société, comment t'appelles ça là?
Commission scolaire.
Commission scolaire, oui, francophone, c'est ça. Bon, on avait une résolution là-dessus, oui.
Et dans les paroisses, elles s'impliquent beaucoup plus, surtout au rapport avec rapport aux services tels que les liturgies. Maintenant, beaucoup sont lectrices, plusieurs sont dans les conseils paroissiaux, le pastoral. On fait encore de l'animation des chapelets, de liturgie spéciale, mm-hmm. des cafés, des goûters après les funérailles. Ça se passe encore, ça? Et puis vraiment, on se montre comme femme d'église, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Absolument.
Et le livre « Femmes de chez nous », est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de ça?
Ah bon, là c'est Cécile Bayou et puis France Lemay qui ont commencé.
Oui, et puis qu'est-ce qu'on disait dans ce livre-là? Là?
Bien, c'est qu'ils ont demandé aux dames de la Ligue de faire l'histoire de leurs grands-parents, les histoires des dames qui ont laissé une marque ici au Manitoba dans n'importe quel domaine. Et puis Cécile et puis France ont recueilli les historiques qui sont venus, et puis jusqu'à une centaine, je pense. Hein. Et puis même, il y avait des histoires de religieuses là-dedans. Alors, ils ont publié un livre.
C'est vraiment fantastique. Oui. On reconnaît les femmes mm-hmm. et toutes leurs contributions. Oh, je peux continuer? Alors,
conclusion.
OK. C'est sans doute un des bons fruits du féminisme. Des femmes qui s'intéressent de près à leurs sœurs de classe ordinaire, telles que des femmes battues, violentées, des femmes qui s'ennuient à la maison, des femmes âgées, des femmes seules. Et alors, je voudrais vous faire écouter encore Robbie McDougall. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Moi, ton sauveur, j'ai pardonné
Émission mensuelle pour la Ligue féminine catholique intitulée Pourquoi pas? Je m'appelle Florence Bourgoin et j'aimerais vous présenter nos invités pour aujourd'hui. Ce sont Mme Augustine Abraham, Suzanne Dion et M. Claude Ayotte. Voulez-vous, Mme Abraham, nous parler de vos traditions familiales?
Oui, j'aimerais ça vous raconter un peu. Mais le chant que vous venez de chanter, de faire chanter, c'était vraiment un très beau chant qui est très approprié pour notre Ligue féminine catholique, surtout que c'est le thème de notre année.
C'est vrai, c'est bien beau.
Et puis, les traditions, ça va de très loin, les traditions. Quand nous étions jeunes, le temps de la Noël, c'était le temps des fêtes, on peut dire, c'était un temps vraiment spécial pour nous, la jeunesse, hein, parce que on attendait ça avec anticipation, puis avec toutes sortes d'excitement, puis on dirait qu'on dormait moins bien, on se couchait tard, puis on se levait tôt, puis on dirait qu'on était vraiment, vraiment content de ce qui se passait.
Ah oui? C'était plus excitant dans votre temps que ça l'est maintenant?
Ben, je me rappelle comment c'était excitant pour moi quand j'étais jeune. Mais maintenant, si c'est plus excitant maintenant, il faudrait se référer à la jeunesse, parce que moi, là, je suis passée l'âge de la jeunesse, alors je trouve que les traditions ont un peu changé par rapport à notre jeunesse, parce que nous, on allait à la messe de minuit, puis on allait aux trois messes à minuit. Et puis on avait toutes les misères à se tenir réveillé, mais il fallait entendre la troisième messe qui était seulement des chants de Noël. Puis je vous dis que ça, c'était quelque chose, parce qu'on avait un cœur de chant fameux, là, puis on frissonnait d'entendre ça. Après ça, on s'en retournait à la maison, puis là, c'était le réveillon. Pas tellement de cadeaux, mais le voyage à la maison en espèce de caboose, qu'on appelait, ou des traîneaux, là, des berlines, qu'on allait avec les chevaux, puis les sonnettes, là, puis ça, c'était fameux. Maintenant, on n'en a plus de sonnettes, on se promène tout en voiture. Alors, c'était vraiment fameux. Puis on arrivait chez nous, puis il faisait chaud dans la maison, puis ça sentait le bon manger. Puis là, on avait un vrai réveillon, puis mais on n'avait pas beaucoup de cadeaux, comme je vous disais tantôt, on n'avait pas beaucoup de cadeaux à la Noël. C'était le jour de l'an qu'on fêtait ça. Le jour de Noël, c'était la fête du petit Jésus, puis on fêtait la fête du petit Jésus. Mais le jour de l'an, c'était comme commencer l'année. D'abord, on allait à la messe du jour de l'an, et puis après ça, on allait visiter le curé qui nous offrait toujours un petit sac de bonbons, puis il nous donnait sa bénédiction. On retournait à la maison, puis là, on avait nos cadeaux du jour de l'an. C'est juste avec les années quand moi j'ai commencé, disons, parler de moi-même, là, que j'ai commencé à élever ma famille, qu'on a changé ça à la Noël.
Ah, oui.
Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a fait ce changement-là, mais c'est ça qui nous est arrivé.
Oui, on fêtait beaucoup plus Noël comme une fête religieuse que maintenant, c'est beaucoup de cadeaux maintenant.
Oui, c'est plus de cadeaux maintenant. Oui. Mais nous, on était contents si on avait un orange puis une poignée de pignottes dans notre cadeau du jour de l'an. Puis après ça, on allait manger chez ma mère puis peut-être qui restait pas très loin. Des fois, on partait à la noirceur le jour de l'an matin, là. Et puis on marchait jusque-là, puis on voyait les belles étoiles. Et puis le ciel était foncé, puis les belles étoiles étaient plus brillantes qu'à l'ordinaire. Et puis là, on s'en allait, puis on mangeait toutes sortes de mets traditionnels, là. De poutine en sac, et puis de beignes croches, et puis de tourtière, et puis de patates chaudes. Et puis c'était vraiment quelque chose de bien.
Mm-hmm. Mm-hmm. T'avais-tu quelque chose à nous dire des traditions?
Je pense que pour moi-même, ce que je me rappelle plus, c'est comme, comment on dit, les trois mètres.
Mm-hmm.
Puis pour élever ma famille moi-même, je ne peux pas dire que ça a été des Noëls de cadeaux. Parce qu'on était pauvres, mais on ne savait pas qu'on était pauvres, mais on était heureux. Mm-hmm. Alors ça ne faisait pas de différence parce que tout le monde autour de nous était pauvre. Alors ça voulait dire quoi, ça? C'est pas important. C'est pas important. Mais moi, je me rappelle des grosses maisons pleines de monde, de familles qui venaient pour des soupers de Noël. Les hommes jouaient aux cartes, les femmes lavaient la vaisselle, puis les enfants couraient partout dans la maison. Ça, je me rappelle. Je me rappelle que les choses qui pleuraient tellement qu'il y avait du humidité dans la maison.
Non.
Puis je pense que chez nous, avec nos enfants, si on essaye de reprendre quelques vieilles traditions. Au lieu d'acheter dans les magasins, on essaie de faire des cadeaux. On dit, cette année, c'est un cadeau, c'est un Noël fête. Ça, ça veut dire que cette année, on va faire nos cadeaux. Quelque chose qui va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Quelque chose qui n'est pas nécessairement acheté dans un magasin. Parce que ça ne prend pas autant de temps. Mais c'est bien. Moi, pour moi-même, je préfère avoir un cadeau que quelqu'un a préparé spécial pour moi.
Ça dit beaucoup plus, c'est
oui.
Ça,
oui. Oui.
Vous, M. Ayat, auriez-vous des souvenirs à partager avec nous autres?
Bon, j'ai beaucoup de souvenirs. Certainement, ce n'est pas des souvenirs joyeux, qu'on pourrait dire. Je me rappelle, j'ai perdu mon père, j'avais seulement 7 ans, 1927. Et puis là, la mère était toute seule avec 9 enfants. La plus vieille, c'était sa première année d'enseignement. C'était dans la Grande Dépression. L'argent, il n'y en avait pas. Puis là, ben, mon père pensait très bien en faisant à louant une maison dans le village à Saint-Jean-Baptiste. Alors, au lieu de restituer la ferme en 4 000 du village.
Ça témoigne l'hiver?
Oui, parce que dans le temps, ben, l'hiver, c'était, comme madame disait tantôt, la berline. Il a acheté les chevaux, puis nous autres, on était trop jeunes. 7 ans, mon frère Bernard avait 9 ans. Les 4 filles, c'était les plus vieilles. Les 4 filles, après ça, 4 garçons, puis c'est drôle que ça, malgré que, comme l'autre madame disait tantôt aussi, on ne s'apercevait pas, on ne savait pas qu'on était pauvres.
Mm-hmm.
Non, parce que tout le monde était pareil. Le village, tu sais, en fait, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de manufacture, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas seulement que les fermiers. On faisait des petits parties l'hiver, puis chacun notre tour. Et puis, quand j'ai eu 16 ans, je travaillais à 5 $ par mois.
C'est pas légal aujourd'hui, ça?
Non. J'avais toujours eu l'envie d'avoir un violon, alors je n'en ai un chez le cadre pour 4,95 $. Moi, c'était 5 sous pour m'acheter un paquet de tabou. Dans le temps, c'était ça. Puis là, j'ai appris par la radio. Il n'y a pas moyen de prendre la leçon, mais pas l'argent de prendre la leçon.
C'est ça, j'étais pour vous dire, vous n'avez pas pris des leçons dans votre temps, vous aviez appris juste par
le
même.
Écouté, oui, on écoutait un poste américain, là.
Puis vous suiviez avec votre violon, vous jouiez?
Et puis on essayait de suivre ça.
Ah oui?
Ça n'a pas pris tellement de temps, hein, le choix pour les... Il les faisait danser, en tout cas, il trouvait ça assez bon, parce que... C'est que ça ne prenait pas grand-chose pour danser aussi, mais tout de même.
Et vous allez nous en jouer un morceau de notre violon aujourd'hui, hein?
Peut-être essayer, oui.
Oui. Nous autres, on vivait à l'autre bord de la rivière, puis mon mari vivait à l'ouest. Puis finalement, il a trouvé ce que je demeurais, puis je l'ai rencontré une fois, une partie de quatre, puis il devait me trouver bien belle, je trouve, c'est un beau sourire, parce qu'on a sorti ensemble 2 ans, on s'est mariés 2 jours après Noël. Puis c'était l'idée, je ne sais pas, il faisait pas chaud.
Un petit jour, que j'avais une dent d'or.
En tous les cas, on s'est mariés 2 jours après Noël. Puis on demeurait sur Jean-Baptiste 1 an, ensuite on était à l'Italie 2 ans, 2-3 ans. Ensuite, on a déménagé à Saint-Jean-Baptiste. On a demeuré là 28 ans. Puis, on a acheté à Saint-Boniface, c'est à Rive-de-l'Or, 17 ans. Puis, avec tout ça, on s'est ramassé 7 enfants. Moi, j'ai dit, c'est assez.
J'aimais bien la fille, au bord de la rivière, mais j'aimais pas tracer le ferry.
Ah, ça! Oh, c'était pas drôle, ça. J'aimais pas ça. Il faisait le tour par Maurice. Il y a la fête. Nous, on était habitués, on connaissait pas, tu sais, c'était notre manière de traverser en bateau le printemps, parmi les blocs de glace, là.
Quand il pleuvait, il y avait le bout, là. C'était l'automobile embarqué sur le ferry, là, c'était pas toujours...
Ah oui. Fait, quand il y avait trop, qu'il aimait pas ça, il faisait le tour par Maurice, il y avait un beau coin, puis s'en allait au bord de la rivière, il vivait à Saint-Luc du village.
Est-ce que vos traditions étaient un peu semblables à celles que vous viviez dans l'autre côté de la rivière?
Oui, le monde vivait, je pense, pas mal, c'est pas mal la même tradition. On avait notre réveillon de Noël, là, puis on n'était pas trop riche, mais j'ai jamais connu de misère quand même. J'ai pas connu la misère quand même, quand on était une grosse famille de 14. C'est une ferme, hein?
Vous aviez votre père et votre mère.
Puis, c'est une ferme, mais t'as
des
animaux. Oui, puis c'est une ferme, mais des animaux, t'as du lait, t'as de la crème, t'as du beurre. J'ai jamais connu la misère, vraiment. Parce que je sais pas. C'est juste la misère que c'est vraiment. On s'est marié, on n'était pas riche, mais encore, je n'ai pas connu la misère. Donc, là, ça fait 46 ans qu'on est marié. Je pense qu'on divorcera pas.
Non,
pas tant ici. C'est trop longtemps. C'est trop, pas trop longtemps. Non, la vie passe comme ça.
Il me rappelle un peu de mon père. Je le trouvais bon vieux. Il avait seulement 41 ans. Il était malade.
Ah, oui.
Il avait été opéré.
C'est
des
souvenirs plus douloureux, mais il y avait des bons souvenirs quand même.
Ah oui.
Les veillées qu'on avait dans le temps du jour de l'an, le jour des rois, le jour de l'an. La veille du jour de l'an, pas tellement, parce qu'on se reposait pour le lendemain. Mais pas la veille de Noël, pas Christmas Eve comme il y appelle maintenant. Là. Non, c'était le jour de Noël, puis le jour après, puis là, ça ne dérougissait pas jusqu'après les rois.
Puis
on allait visiter partout les mon oncle, ma tante, les grands-parents. Puis on allait, c'était en sleigh, là, même un team de chevaux dessus, là, des sleighs, là. Et puis, on partait, puis, de bonne heure le matin, puis on revenait le soir vers 10h30, 11h, mais on n'avait pas d'école le lendemain, alors on pouvait dormir, ça faisait rien. On allait veiller toute la famille. Il n'y avait pas de gardien dans le temps. On ne gardait pas les enfants pour ça. On allait toute la famille entière, les petits bébés et tout, dans un peu de foin dans le fond de la grosse clé, là, puis le team de chevaux, puis un homme bien habillé, puis nous avec des fers qu'on avait fait chauffer au four avant de partir, là, puis qui gardait ça en dessous, des couvertures, là, enveloppées dans de la gazette, là, pour pas que ça refroidisse trop, puis après qu'on on était tous réchauffés. On gardait chacun notre chaleur de corps un peu, là, puis on était bien.
J'aimais jouer le piano dans le temps parce que j'étais invité à tous les pays.
Ah oui.
jouais de la musique à bouche.
Ah.
Alors, ça faisait du...
C'est vous qui les faisiez danser,
là. L'entrain. Mm.
Il y avait dans chaque canton, un peu, chaque coin de paroisse, un vieil homme à qui on pouvait se fier pour... Puis, il n'attendait pas d'être payé non plus pour venir jouer. Il venait jouer juste pour le plaisir d'être avec nous autres et puis de faire danser les jeunes et puis de faire danser les moins jeunes aussi.
Il y avait un nommé Paradis de Saint-Joseph. Lui, il jouait bien. Il est bien, mais je ne jouais pas comme lui.
C'est venu plus tard quand même. Là, maintenant, vous jouez.
Donc, combien d'années que tu as dit? Quand tu as commencé à jouer du violon, aller, quand tu as commencé à apprendre, comment donner une trentaine d'années, ça fait.
Oh, ben, j'avais acheté mon violon, j'avais 16 ans. Mm-hmm. J'ai joué jusqu'à 21. Quand j'ai rentré dans l'Air Force, je ne vais pas traîner le violon avec moi.
Ah, oui.
Alors j'ai laissé cela. Et j'ai pas joué le violon aller jusqu'en 1976.
Ah,
oh,
putain.
Tu as acheté un beau violon.
En 1976, ben là, j'ai eu une attaque de cœur. Puis j'en ai eu un autre en 78. Puis là, ben, j'ai dû arrêter. Pourquoi j'ai arrêté par la vie? Ça marchait bien.
Puis là, maintenant, vous avez le temps de pratiquer le baccalauréat, de jouer le baccalauréat.
Oui.
C'est du souffle qui manque.
Ah, bon.
Mais là, j'ai.
Il y a toujours quelque chose.
J'ai acheté un violon de M. Miro, qui restait à Windsor Park.
Ah, oui.
Et puis ça s'est donné que. Le monsieur Miro avait marié une désaunier.
Ah oui.
Le désaunier, c'était cousin avec ma mère. Ça fait que on était presque parents, on a fait du bon temps en parlant, puis un bon petit vieux. Il me dit comme ça, il dit, moi j'ai fait 12 violons.
Ah.
Et puis il dit, toi, t'es capable de jouer, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas joué. Il dit, t'es capable d'en faire des violons pour ça. Il dit, ouais, ils ont donc. Il dit, qu'est-ce que vous faisiez ça? Ah ben, je le sais. Il dit, moi j'ai 80. Je crois qu'il y avait 81 dans le temps. Il dit, moi, va te passer ma clientèle. Et puis il dit, pourquoi tu commences pas ça? Il dit, moi, je chercherais quelque chose à faire. C'est pour ça que je voulais m'acheter un violon pour commencer à jouer. Parce que deux avec le cœur, qu'est-ce que tu fais pour ça?
Ben oui.
Assis dans la maison, rien. Et je me suis mis à réparer en 76. Et puis, moi, j'ai connu bien du monde. Après qu'ils ont su que je faisais ça, ben, c'est venu que c'était trop.
Ah oui.
En 1980, ben, j'ai dit, me faire un violon pour Noël. Ben, je voulais le faire pour le festival. Quoi.
Ah oui.
Parce qu'ils me demandaient toujours au festival. Ben,
mais oui, on vous voit au festival
ici,
avec vos
violons. Et puis, c'est bon, on m'en fait un, mais je n'ai pas dit à personne. Mm-hmm. Je ne savais pas que c'était pour le billet, ça.
Mm-hmm.
Et puis là, j'ai rencontré Graham Townsend, qui a essayé mon violon au centre culturel. Ben, il dit, that's a good fiddle, il dit, good for old time fiddling. Moi, je pensais que. Il a vu, il a
vous taquiner.
Oui. Non, il dit, c'est puis quand il est revenu, un an ou deux après, il est revenu au bois brûlé. Il était rendu là, puisqu'il m'avait dit, viens donc avec ton violon, ils ont essayé ça. Hein. Là, j'en avais fait d'autres.
Oui.
Fait que ben, j'ai juste meilleur aussi qui était là. Mais, bon, fait qu'ils ont joué sur mon violon, puis les deux, puis ils ont dit, coudon, ça c'est chose exceptionnelle, le numéro 10, le 10e violon que je fais. Et on dit ça, si ça allait de faire de la Violin Makers Association, quelque chose, dit dans le contest, et ça gagnerait des prix, ça, cet instrument-là. Alors je dis, arrêtez là, je dis, pas mal vite avec ça. Mais ça n'a pas manqué l'année d'ensuite, j'ai été à Vancouver, puis j'ai joint le Violin Makers Association. J'ai gagné le premier prix.
Ah, bravo!
J'ai les trophées, là.
Oui.
Et puis,
oui.
Là, j'ai retourné. Oui.
arrivé pour un bout de temps.
Bien. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais une boutique de radio-télévision à Saint-Hervé. Je réparais les radios, je réparais les moteurs. Ça s'appelait Claude Électrique. Et en 71, mes enfants étaient presque partis, mes garçons étaient partis, ils enseignaient. Puis j'en avais un qui venait au séminaire dans le temps. Alors, je me suis dit, tout seul, j'ai dit, je suis bien devant ça. J'ai passé ça avant de. Je suis capable de monter sur les maisons, puis poser des antennes de télévision, puis porter des. Je me suis fait opérer dans le dos. Ça fait que j'ai vendu. Puis là encore, je ne savais plus quoi faire de moi. Je me suis mis à faire du vin. C'est demain, j'ai commencé. En 71. En 71, j'ai commencé à faire du vin. Puis je m'informais comment. Avec des fruits, puis avec des concentrés, différentes méthodes. Il y a plus des cerises, des choke cherries, des wild choke cherries, et ça. Ça peut être le meilleur vin qu'on peut faire.
On appelait ça les cerises à grappe.
Oui, cool. Et puis il y a le raisin aussi qui pousse du long de la rivière. Il y en avait beaucoup du long de la rivière avant la flotte. Aujourd'hui, on en trouve seulement que. On a tous des lèvres du long de la rivière, là, un ami a nommé La Chance. Il m'en avait emporté un gros sac une année, j'avais fait du mal, ça c'était du bon. Oui. J'ai fait du vin. Allez jusqu'à là, 4-5 ans. Oui. C'est pas que j'en buvais tellement moins, mais j'aimais ça faire des cadeaux. C'est le fun. Pas le temps. Oui. Parce qu'une fois, ça doit faire 5. Pas plus que ça, c'est 7-8 ans de ça. Pierrette La Chance avait entendu parler que je faisais du vin, puis aussi je faisais des melons. Alors, elle avait fait venir Jacques Wood, avec la moustache, la belle moustache frisée. Là. Elle a fait venir de Montréal pour m'interviewer comment faire du vin. C'est venu, c'est parce que le Vice National du film, il doit avoir encore là.
Ah.
Le tape, oui. Parce que ils ont passé l'après-midi ici. Puis le soir, on a fait comme un petit party. Puis ils ont resté à souper, puis j'avais invité Marcel Meilleur, Rivard, James Rivard, un ami. Oh, puis mon cousin, là, celui qui est décédé, Émile Desilets, il jouait le violon ici.
Ah, oui.
Puis il aime ça, le violon. Il trouvait ça bien fameux que j'ai fait des violons. Et puis on a fait un petit party. J'écoute, j'avais bien aimé ça aussi. Mais quand j'avais été à Vancouver l'année d'ensuite, dans le mois de juin, je m'en allais prendre un café à l'université de UBC. Puis juste en montant les marches, j'avais mon violon avec moi, le quai de violon. Et quelqu'un il passe vers moi et il dit « I know you ». Moi, je ne le connaissais pas. Il dit « I saw you on television ».
Ah, ah
et
oui.
Et puis ça avait paru. Ça avait paru bon, à bord du Canada, quoi. C'est ce qu'il
dit.
Bien,
c'est bien.
C'est bien que le plus, comment moi, ça s'est dit, on va, oui. On avait pris un bus excursion. On n'a pas posé à Nanémo. Nanémo, il y avait Noël Les Tourneaux que je connaissais bien. Et puis, il m'avait vu, il s'avait passé pour avoir fait un peu.
Bien. Nous aussi, on trouve que vous faites des fameux de beaux violons.
Là, c'est spécial. Le 15e violon que j'ai fait, c'est un Hardanger violin. C'est traditionnel, ça, en Norvège. J'ai joint le Hardanger Fiddle Association des États-Unis, Brandon Falls, Minnesota.
On avait vu, oui.
J'ai vu là, 4-5 ans, ça fait 4 ans. J'ai été à Winona, pas loin de Rochester, là, pour rencontrer ces gens-là. Il y en avait deux, je savais qu'ils venaient de la Norvège, qui faisaient ces violons-là. Par la fois, un mot d'anglais, on s'est compris quand même, parce que fois le signe, puis j'avais apporté mon violon, j'avais fait ça. Et lui aussi, il en avait apporté. Et puis j'ai vu, puis là j'ai appris que leur manière de jouer la musique, c'était différent comme nous. C'était un petit peu comme la Louisiane avec nous autres. Le old time feeling, c'est pas pareil partout. Le folklore norvégien. Une drôle de façon donc, de jouer, ils s'accrochent le violon sur l'estomac plutôt qu'en dessous du menton.
Mm-hmm.
Et puis ils jouent seulement en première position. Et puis une manière d'archette, bon, c'est pas la même manière, c'est pas la même stabilité.
Mais c'est toujours intéressant quand même de voir l'expérience.
Oui, c'est ça.
Et bientôt la fin de notre émission pour aujourd'hui le 15 décembre. Rappelons-nous que Noël approche à grands pas et que la naissance de Jésus est une fête de partage et d'amour. Surtout, n'oublions pas ceux qui n'ont peut-être rien à manger. Et sur cela, au nom de l'exécutif diocésain, j'aimerais souhaiter à chacun de vous un joyeux Noël et une bonne heureuse année. Au revoir et à la prochaine émission qui sera le troisième dimanche de janvier. Mais avant de nous quitter, écoutons un peu de cette chanson « Noël, c'est l'amour ».